bonjour, bienvenue à Escale 17-18 de cette journée de jeudi, cette journée pluvieuse avec cette pluie qui ne nous laisse pas tranquille. Voilà, ça y est, mais quand même on se tient au chaud ici en studio. Première partie d'émission avec Myriam Larache qui va nous parler de sport. Bien évidemment des JO d'hiver de Pékin 2022. Voilà, et puis en deuxième partie d'émission, je vais recevoir Graziella Pettinati, qui est graphopédagogue, qui va nous parler du concours écrit en cursive. C'est cool, c'est quoi? Ça s'adresse aux jeunes gens, aux jeunes enfants, hein, de 6 à 13 ans. Voilà, ça existe depuis quelques années, et puis bon, ben, les enfants ont pris goût. Bon, chaque année, il y a une édition qui se passe. C'est une manière de leur dire, mais c'est bien ce que vous faites, si vous aimez écrire en cursive, pourquoi pas continuer, allez-y, gardez le cap. Voilà, c'est comme ça. Donc Graziella Pettinati, qui a la maison d'édition, Graziella Pettinati, qui va nous parler de ça à deuxième partie d'émission, concours écrit en cursive, c'est cool. Voilà, qu'est-ce qu'on fait tout de suite, comme d'habitude? On va en musique, avec le grand choral de Francis Cabrel et Fred Pellerin. Répondez-moi.
Dans une maison sans balcon, sans toiture, où il n'y a même pas d'abeilles sur les pots de confiture, il n'y a même pas d'oiseaux, même pas la nature, c'est même pas une maison. J'ai laissé en passant quelques mots sur le mur du couloir qui descend au parking des voitures, quelques mots pour les grands, même pas des injures, et si quelqu'un les entend, répondez-moi, répondez-moi, mon cœur a peur d'être emmuré. Vos tours de glace, condamné au bruit des camions qui passent, lui qui rêvait de champs d'étoiles et de colliers de jonquilles pour accrocher aux épaules des filles. Mais le matin vous entraîne en courant vers vos habitudes, et le soir, votre forêt dentaire est branchée sur la solitude, et que brille la lune pleine, que souffle le vent du sud, vous n'entendez pas. Et moi, je vois passer vos chiens superbes, aux yeux de glace portés sur des coussins, que les maîtres embrassent. Et pour s'effleurer la main, il faut des mots de passe pour s'effleurer la main. Répondez-moi, répondez-moi, mon cœur a peur de s'enliser dans aussi peu d'espace, condamné au bruit des camions qui passent, lui qui rêvait de champs d'étoiles et de pluies de jonquilles pour s'abriter des épaules des filles. Mais la dernière des fées cherche sa baguette magique, mon ami le ruisseau dort dans une bouteille en plastique. Les saisons se sont arrêtées au pied des arbres synthétiques. Il n'y a plus que moi. Et moi, je vis dans ma maison sans balcon, sans toiture. Il n'y a même pas d'abeille sur les
pots. Mon ami le ruisseau qui dort dans une bouteille en plastique. C'est très bien, c'est bien, Francis Cabrel, ça. Répondez-moi avec la complicité de Fred Pellerin. Alors, Myriam est déjà au bout du fil pour nous parler des JO de Pékin d'hiver, JO d'hiver de Pékin 2022, bien sûr. Et puis aussi, bon, ben, y a d'autres nouvelles que je connais pas. Je sais qu'elle va, elle va pas être là sans parler des JO de Pékin 2022. Bonjour Myriam Larache.
Bon après-midi, Fulgence, et bon après-midi à tous nos auditeurs. Ça va bien?
Oh oui, ça va bien, merci. Et toi?
Oui, ça va, merci. Journée pluvieuse.
Ouais.
On se croirait au printemps.
On se croirait déjà au printemps, mais c'est pas, on n'est pas encore au printemps, on est toujours en hiver.
Non. Toujours. N'oublions mais, pas que nous sommes au Canada.
Le froid de février, c'est un mois à qui j'ai pas confiance.
Exact. On dit que c'est le mois qui déprime les gens. Hein. Oh. Il y a le Blue Monday, hein. Je pense qu'on y approche, c'est lundi prochain, je pense.
C'est ça, oui, c'est ça.
On atteint un pic dans notre morosité d'hiver.
Voilà, alors qu'est-ce que
on va passer aux belles histoires et aux médailles d'or.
Ouais, parce qu'il y a pas mal de médailles qui tombent là-bas du côté de nos filles et puis de nos garçons aussi. Ouais.
Alors, c'est ça. Alors, on commence avec le patinage courte piste relais masculin.
Oui.
Enfin, Charles Hamelin finit en beauté sa retraite, n'est-ce pas?
Quelle belle finale. Voilà, quelle belle finale. C'est ce que je voulais
hier
dire.
Hier, l'équipe canadienne masculine a remporté la médaille d'or au relais du 5000 mètres. Le capitaine et porte-drapeau, n'oublions pas Charles Hamelin, qui avait annoncé sa retraite après ces Jeux, finit en beauté et devient l'athlète canadien ayant le plus de médailles aux JO d'hiver. Ben voilà.
Toute une chorégraphie.
Voilà, tout en beauté. Il était content, on le voyait, hein, sur les images, sur les vidéos du finish. Alors, il était bien heureux. Sa famille aussi, son frère, son père, tout le monde était esthétique. Alors, en patinage longue piste aussi, nous avons eu l'or pour l'équipe canadienne, cette fois en longue piste. Alors, les deux médailles d'argent de bronze n'étaient pas suffisantes pour l'athlète d'Ottawa, Isabelle Weidman. Vous savez, c'est elle qui a brisé la glace avec la première médaille qu'elle a donnée au Canada. Et bien, elle a remporté l'or en poursuite par équipe, en compagnie de Valérie Malté et Ivana Blondin. Et Valérie Malté, eh bien, elle est la seule à avoir une médaille et en longue piste et en courte piste. Et ça, c'est rare, hein, d'avoir dans les deux disciplines. Parce qu'en général...
Ça vous dit qu'elle veut nous prouver qu'elle est bonne partout, quoi.
Partout, mais parce que c'est différent, hein, l'entraînement longue piste, courte piste. Même, je vous dis, physiquement, c'est différent aussi. Hein. Alors, on voit plus... Elles sont plus minces en courte piste et en longue piste, elles sont plus musclées, plus grandes.
Ouais.
Alors, au surf des neiges aussi... On a Max Parot qui encore nous éblouit, encore une fois. Il nous rend fiers. Il gagne le bronze cette fois-ci au Grand Saut. Vous vous rappelez, la semaine dernière, il avait eu l'or. Eh bien, il boucle bien lui aussi cette édition de Pékin. Il est heureux de 3 médailles en tout pour les Jeux d'hiver. Et c'est un jeune de 17 ans, figure-toi, Fulgence, le Chinois Su Yiming qui a gagné la première place, suivi du Norvégien Måns Roaland. Vous savez qu'il y a eu une petite histoire à propos de sa médaille d'or de Max Parot. Hein,
qu'est-ce qui s'est passé?
Dans les sauts, donc vous rappelez le slopestyle dont j'avais parlé la semaine dernière.
Oui.
Il y a la troisième place a été donnée à notre Canadien aussi, Mac Norris.
Oui.
Et il était frustré, Mac Norris. Hein, et après sa médaille, en conférence de presse, il a dit « J'aurais dû mériter la première place. C'est moi qui ai fait la plus belle descente. » Alors, ça a
oui,
choqué
tu as fait,
un peu même.
Oui, tu as fait la plus belle descente, mais tu n'étais pas en tête.
Et voilà. Alors, il a dit, il a même accusé que c'est son coéquipier. Il fait partie de l'équipe, il fait partie de sa délégation. Hein. C'est pas très joli, une image très jolie du Canada hein, à ce moment-là, parce qu'il a dit haut et fort. Quand il a sauté Max Parot, il a fait une erreur. Il n'a pas posé sa main sur son snowboard et les juges ne l'ont pas vu. Ou ils l'ont vu. En tout cas, il a mis le doute dans la tête de tout le monde.
Oui.
Et Et tellement qu'il a été après rabroué par les analystes, sur les réseaux sociaux, il a été obligé d'aller s'excuser en personne à Maxence Parot, qui lui a trouvé ça décevant. Tu sais, c'est là un peu...
Son compatriote. Bon, tu sais, on peut être olympien et ne pas avoir de bonnes habitudes dans la vie. Hein.
Exact. Alors, ça a déçu beaucoup de monde parce que c'était un mentor pour les jeunes. Tu sais qu'avant, Max Parot, c'était lui l'image du slopestyle. Hein. C'était Mac Norris.
Ouais.
Alors, malheureusement, bon... Et là, il lui a prouvé, ben, il lui a dit très bien, ben, regarde, Lui, il est arrivé 10e à cette épreuve, Mac Norris. Ouais. Ben, Maxwell Sparrow a eu la médaille de bronze juste pour lui dire, ben voilà, j'y suis arrivé. Voilà. Donc, c'est un peu... Bon,
pourquoi il y a des gens... dans le sport, il y a des gens qui n'ont jamais été fair play.
Oui, tout à fait. Ben, c'est humain. Hein. C'est ça, ce que ça nous montre. Alors maintenant, en beauté, on va parler du hockey féminin. La finale, toujours presque la même, Canada-États-Unis. Ben, l'équipe canadienne de hockey féminin a pris sa revanche 4 ans après leur défaite face aux États-Unis en 2018. Elle s'est imposée l'équipe 3-2 en finale des JO 2022. La capitaine Marie-Philippe Poulin marque le but gagnant, encore une fois, car c'est souvent elle qui marque le but gagnant, on attend ça. Alors les Canadiennes ont remporté l'or pour la 5e fois en 7 finales. C'était la 6e fois contre les États-Unis et elles se sont affrontées. Et voilà, donc la Finlande qui complète le podium de cette édition après sa victoire contre la Suisse. Pas formidable ça, Fulgence. Ça nous rappelle quoi, Fulgence?
La finale de soccer féminin. Et la finale féminine de soccer.
Exact, on est sur la même longueur d'onde. Ça nous rappelle.
C'est ça, j'ai dit Myriam va leur faire un clin d'œil, l'équipe féminine de soccer.
Mais c'est vrai, c'est vrai. Qui était aux Jeux Olympiques aussi, voilà. Et qui était contre les États-Unis encore une fois. Là, elles vont commencer à nous détester.
Mais ce sont leurs rivales numéro un, il faut le dire.
Ben hein. Voilà. Nous avons le même profil, on va dire.
C'est ça.
Alors par contre, là, je vais vous parler d'une histoire un peu... l'affaire Camila Valieva en patinage artistique. Alors je ne sais pas si tu en as entendu parler, Fulgence, certainement, parce qu'on en a parlé partout.
La petite russe de 15 ans. On dit qu'elle s'est trompée, elle a pris les médicaments de son papa, là.
De son grand-père.
De son grand-père.
On va pas parler beaucoup de comment elle a pris.
Non, c'est pour moi que j'ai appris ça.
Tout à fait. Mais c'est sûr parce que l'enquête est en cours, hein, Fulgence. Une enquête approfondie qui va aller donc voir vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Mais ce qu'on sait, c'est qu'en décembre dernier, elle a été testée positive au test antidopage. Donc la patineuse russe Camila Valieva, 15 ans, a été quand même autorisée ce lundi parce qu'ils ont tenu ça en suspense. Va-t-elle jouer? Une fois qu'on a appris ça et qu'elle est passée l'épreuve par équipe, a continué à poursuivre donc son épreuve individuelle, mais le tribunal arbitral du sport l'a autorisé. Il a suspendu, donc il a relevé sa suspension provisoire. Il lui a permis de faire l'épreuve individuelle. Malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé, ce genre?
Elle s'est écroulée. Oui, ouais, j'ai vu la vidéo.
Elle est jeune, finit par atteindre cette jeune athlète. Considérée déjà, figure-toi, comme quand même l'une des meilleures patineuses de l'histoire, qu'elle réussit des quadruples sauts. Hein.
Ah non, mais alors, attention, à 15 ans, tu parles de l'une des meilleures de l'histoire, car à 15 ans, tu débutes ta carrière, au fait.
Bah, c'est ça qu'ils annonçaient d'elle, parce qu'elle a eu une note parfaite, Fulgence, par équipe. Elle a eu 10 sur 10 du jamais vu. C'est ce qui a amené les Russes au premier podium par équipe. C'est comme ça qu'elles sont arrivées. Par équipe, avec un 10 sur 10. Tu comprends il y a une semaine de cela, quand l'épreuve s'est passée. Alors d'ailleurs, ils n'ont pas donné les médailles.
Ça me fait penser aux épreuves. Oui, ça me fait penser aux filles de l'ancienne Union soviétique et puis de l'ancienne Allemagne de l'Est aussi, hein, à l'époque.
C'était
les mêmes magouilles. Voilà.
Exact. Alors elle a raté son programme libre, elle s'est écroulée et son entraîneuse, devant les caméras du monde, l'a engueulée. Elle lui a dit, comment tu as fait pour rater ça? Pourquoi tu as laissé tomber? Alors ça a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Elle s'est mise à pleurer. Et même la Russe qui a gagné, d'ailleurs, elle a dit, moi, je veux plus jouer dans ce jeu. Alors, il y avait un drame avec l'autre Russe, sa compatriote, qui a la même entraîneuse, et qui a dit, je ne veux plus participer à ces jeux, qui s'est mis à pleurer, elle aussi. Écoute, c'est le drame.
Mais si elle veut plus jouer, elle ne pourra même pas retourner en Russie.
Écoute, elle leur a dit, je ne veux plus, ça y est, je ne sais pas qu'est-ce que ça. Elle s'est mise à pleurer, elle aussi, Trusinova, c'est celle qui a gagné.
Il faut qu'elle demande l'exil. Il faut qu'elle demande l'exil quelque part, là, si elle veut plus aller en Russie, là, si elle va en Russie.
Son désespoir de la manière dont il gérait avec l'entraîneuse,
la
et
coach,
tout cet entourage.
Oui, je comprends. Mais si elle dit qu'elle ne veut plus jouer, mais si elle va en Russie, elle sait ce qui l'attend là-bas.
Elle s'est permis de dire ça devant toutes les caméras, elle pleurait, l'entraîneuse qui lui courait après. En tout cas, toute une histoire qui entache un peu ce patinage artistique, malheureusement, et qui ravive cette histoire de dopage chez les Russes, hein, parce qu'on se rappelle que depuis les JO de 2014 de Sochi, eh bien, il y a eu le scandale de dopage chez les Russes.
Oui, c'est ce qui fait qu'il s'appelle maintenant ROC.
Exactement. Tout a commencé presque là que ça a éclaté. Alors, donc c'est triste tout ça. on va continuer à avoir l'enquête pour enfin donner la médaille par équipe. Et tu sais que si jamais ils éliminent la Russie, qui va gagner la troisième médaille? C'est le Canada. Alors, on est presque un peu impliqué dans tout ça, car on est quatrième par équipe.
Nous sommes concernés. Oui, on s'avait dit que, non, de toute façon, moi, je ne ris pas pour ce qui est arrivé à la jeune fille, parce que c'est pas, si c'est les
c'est
gens...
Très, bon... c'est pas sa faute, elle est jeune, hein.
Voilà, si les gens ont pris l'habitude de doper les athlètes là-bas pour gagner et tous voilà. les trophées, de toute façon, est-ce qu'elle, elle peut même pas s'opposer, hein. Ils sont tous comme ça, et puis c'est le système de gagner. C'est la manière de... C'est la manière de gagner, voilà. Donc,
ils peuvent même lui donner sans qu'elle s'en rende compte. Hein.
Oui, mais au moins dans son sommeil. Elle est en train de dormir, voilà, ou bien mettre dans l'aliment.
C'est pour ça d'ailleurs, exact. Et c'est pour ça qu'on donne d'ailleurs une notion dans le tribunal du sport, où on dit un adolescent en patinage artistique en dessous de 16 ans, ben, il n'est pas responsable s'il est dopé. C'est pour ça qu'ils ont soulevé sa suspension, parce qu'elle est mineure, tu comprends? Donc, ils ne la tiennent pas responsable de ce qui s'est passé.
Ce pauvre athlète russe.
Oui. Son visage était d'une tristesse pas possible. Alors, on passe maintenant avec les Jeux Olympiques. On va juste surtout dire que le Canada, en ce moment, il est au cinquième rang, en général.
Ils sont aux anges, les athlètes canadiens.
Oui, mais je pense qu'ils sont un peu moins. Ils ont moins de médailles, peut-être, que la dernière fois. Hein. Ouais. Alors, ils sont au cinquième rang pour le moment, avec 20 médailles en tout, dont 4 en or. Voilà.
Tu sais que les Suédois et puis les Allemands, ils sont plus puissants.
Oui,
voilà.
Ils sont là. Et les Finlandais aussi, d'ailleurs.
Oui.
Alors, maintenant, sachez que c'est quand même les derniers jours des Jeux. Ça finit dimanche, le 20.
Oui. Et puis, ça va vite.
C'est 2 semaines en hiver. Mm-hmm. C'est pas un mois comme l'été.
Oui.
Et les Jeux paralympiques vont commencer tout de suite après. Donc, on vous donnera également des nouvelles.
OK.
On passe au tennis pour finir.
Pour finir rapidement, oui, avec cette histoire de tennis là, tu voulais parler de la retraite de quelqu'un ou bien de quelqu'une.
C'est ça. Oui, parce qu'il a été évoqué cette semaine par ta personne, Monsieur Fulgence,
oui.
Le premier titre de Félix Auger-Aliassime à Rotterdam. On va souligner aujourd'hui, il a eu son premier titre, sa carrière commence. Ben, il y en a un qui sa carrière se termine malheureusement avec le grand Juan Martín Del Potro, le grand Argentin.
Le grand Del Potro, ouais.
Non. Il fait 1m98 et on le surnommait la Tour de Tandil. Il est grand, hein. La Tour de Tandil, on le surnomme, figure-toi.
Une vraie baraque.
Oh, incroyable, il est immense et large. Hein.
Ouais.
Alors, sachez que la semaine dernière, il y avait un tournoi à Buenos Aires. Alors, Del Potro, rappelons-le, troisième raquette mondiale quand même en 2018, n'avait plus joué sur le circuit depuis presque 3 ans à cause d'une blessure au genou où il a été opéré plusieurs fois. Il avait annoncé juste avant que le tournoi commence qu'il venait jouer dans la capitale argentine pour dire peut-être un adieu plus qu'un retour et qu'il n'avait pas de meilleur tournoi que chez lui pour prendre sa retraite. Il a été défait d'ailleurs au premier tour par Del Boni et il a dit au public en larmes, il était en larmes, Fulgence, aujourd'hui j'ai tout donné, tout ce que j'avais jusqu'au dernier point.
Ça me fait penser à Roger Federer, je pense bien que Roger...
Federer ne l'annonce toujours pas, mais lui il a dit même, je suis heureux parce que mon dernier match probablement a eu lieu sur un court de tennis et pas parce que j'ai organisé une conférence de presse, les larmes aux yeux, aujourd'hui je souhaite pouvoir dormir, dit-il. Sans douleur.
Il va nous annoncer ça d'ici peu d'ailleurs. Parce que ces problèmes de genou là, vraiment, Myriam, je ne pense pas que...
Il souffre énormément.
Oui, oui. Alors, il y a l'âge aussi. Hein. C'est un sport. C'est comme les jeunes gens que je vois actuellement avec les skateboards, je ne sais quoi, qui sautent là-bas partout. Le genou là, je dis, mais ceux-là, jusqu'à quel âge ils peuvent être sportifs?
Exact. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, il y a un analyste en boss et en saut acrobatique qui dit on a tout le temps des opérations au genou avec ce genre de sport.
Oui.
Donc, l'Argentin, qui a connu son heure de gloire, rappelons-le, a quand même, pour juste souligner, a gagné un grand chelem, l'US Open en 2009, après avoir battu Rafael Nadal en demi-finale et Roger Federer en finale, donc de suite. Il a gagné 2 médailles olympiques tout de même, le bronze à Londres en 2018 en battant Novak Djokovic, puis l'argent en 2016. Face à Andy Murray. Donc, il a une très belle carrière. On lui dit bonne chance.
Oui.
C'était un de mes favoris, Fulgence. Hein, moi,
non. Moi, quand chaque fois que je voyais sa photo, j'ai dit, mais il devait jouer au basket, lui.
Ah, et puis il a un revers magnifique, hein, comme il est. Ah, c'était beau à voir.
Mm-hmm.
Voilà, alors c'est pour ça qu'on a souligné sa carrière aujourd'hui, en se ferrant peut-être, parce qu'il a laissé une toute petite porte ouverte, mais je n'y crois pas, en larmes comme il était, comment il a dit ça.
Tout en émotion.
Adieu Del Potro.
Del Potro, ouais, la baraque. Ouais, non, c'est, merci beaucoup, et on lui souhaite bon vent d'ailleurs. Ouais.
Oui.
qu'une bonne retraite. Il va pas la retraite pauvre là. Il faut pas que. Faut...
Ah non, bien sûr.
Voilà. Merci beaucoup, Myriam.
Ben, c'est moi et je vous dis à la semaine prochaine.
Bon week-end et la semaine prochaine.
Bye.
Ouais. Slide à mes piano. Voilà, c'est fini comme ça avec cette pièce musicale. Je vais parler un peu du Conseil des arts et des arts de Montréal, simplement, qui donne des programmes aux artistes. Quand je vois ça, je dis tiens, pour les artistes peut-être qui n'ont pas la possibilité ou bien qui ne sont pas vraiment informés, comment aller chercher des subventions ou bien comment déposer le projet au Conseil des arts de Montréal. Je dis bien Conseil des arts de Montréal, c'est le CAM qui est en tournée, c'est l'appel des candidatures et maintenant. Ouvert, cet appel est ouvert, oui. Allez-y sur le site là-bas, art au pluriel Montréal, en tout en un seul mot, à montréal.org, /aide par programme, par tournée. Vous allez trouver toutes les infos, mais je vais en parler d'abord. Oui. Et puis, c'est pour faire rayonner les créations au cœur des communautés, le Conseil des arts. le conseil de concert avec les maisons de culture d'ailleurs de Montréal et l'association des diffuseurs culturels de Lille, Adissim. C'est une occasion pour eux qui ont eu l'opportunité au cours des derniers mois d'ailleurs de procéder à l'actualisation du programme phare du Conseil des arts de Montréal qui est en tournée. Donc ils sont très heureux de nous présenter la nouvelle monture de leur initiative qui a été révisée et adaptée aux réalités actuelles comme objectif de faciliter le rayonnement des artistes partout sur l'île. Donc les premiers projets pourront être présentés dès juillet 2022. C'est intéressant, non ? Pour les artistes. Ouais, la pandémie. Il y a d'autres, certains qui étaient déjà en galère et d'autres se sont jetés là-dessus au moment de la pandémie. Donc c'est une manière de dire, bon ben on ne vous a pas oublié, on est là pour vous. Et puis bon ben on va vous permettre de déposer vos différents projets pour avoir un peu d'argent pour pouvoir être toujours actif. Quand l'art prend l'air intégré au Conseil des arts de Montréal en tournée, c'est la fusion de ces deux programmes qui rend possible la présentation d'œuvres déjà créées et prêtes à être diffusées à l'intérieur d'espaces dédiés aux arts. Comme une salle de spectacle ou bien non dédiée aux arts, tel un espace public ou un lieu extérieur privé. Tu vois, il faut être créatif, quoi. Il y a des nouveautés, le programme est élargi aux commissaires et aux artistes professionnels montréalais en art visuel. Donc, les œuvres qui seront retenues seront intégrées aussi dans la programmation d'un minimum de 3 et un maximum de 8 diffuseurs municipaux. Intéressant. Dès aujourd'hui, d'ailleurs, il y a une période de diffusion de juin 2022 à juin 2023. Date limite de dépôt 24 mars 2022 à 17h. Donc à l'automne 2022, pour une période de diffusion à l'été 2023 jusqu'au printemps 2024. Date limite de dépôt à venir. Allez-y sur le site, hein. Toutes les infos sont là-bas, ça va vous permettre de découvrir au moins qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce que je fais, comment je remplis, est-ce que je suis admissible, est-ce que je remplis les formalités. Est-ce que je peux déposer mes dossiers? Est-ce que ce programme s'adresse à moi? Restez à l'écoute. Voilà. On vous revient après la petite pause publicitaire. Et puis, je vais recevoir notre invité qui va nous parler de ce petit concours réservé aux tout petits de 6 à 13 ans. Ouais. À tout de suite après la petite pause publicitaire.
C'est 18 avec Fulgence Blas.
I fell in love with you. That's why it's hard to say goodbye. That's why every time you smile, I get a little bit closer to the sky. You better than me. I would have left you on the first time. That's why you better than me. And I'll be loving you through every moment, every wrinkle in time. I'll be loving you through. And I'll be loving you through every moment, every wrinkle in time. I'll be loving you through. And I'll be making up for yesterday, yeah. Fixing everything that I let break, yeah. And I will walk through fire just to hear you say, say I do, say I do.
I fell in love with you. That's why it's hard to say goodbye. That's why every time you smile, I get a little closer to the sky. And I'll be loving you through every moment, every wrinkle in time. I'll be loving you through. And I'll be loving you through every moment, every wrinkle in time. I'll be loving you through. And I'll be making up for yesterday, yeah. Fixing everything that I let break, yeah. And I would walk through fire
just to hear you say. That's why it's hard to say goodbye. Closer to the sky.
Ian Blue, Walk Through the Fire avec la complice de Neyo. Voilà, notre invité déjà au bout du fil, Craziel Pettinati, graphopédagogue, qui va nous parler de ce concours écrire en cursive, c'est cool pour 2022. Et je pense que les enfants, ils vont adorer ça, encore comme l'édition passée, bien sûr, bien évidemment. Elle va nous expliquer d'abord ce que c'est qu'une graphologue, graphopédagogue, voilà, graphopédagogue. Et puis bon, ben, ceux qui ont parlé aussi de l'édition passée, qui a gagné. Et puis de cette nouvelle édition, qui va permettre aux enfants encore de continuer à écrire cursive. Cursive, c'est cool, j'aime bien ça, ce titre-là. Bonjour. Graziella Pettinati, graphopédagogue.
Oui.
Et éditrice en même temps aussi. Hein.
Ben, oui, parce que j'ai fait des petits cahiers d'écriture et puis après avoir commencé avec des maisons d'édition officielles, j'ai décidé d'éditer moi-même les livres.
Génial, bravo, bravo, bravo. Je sais que quand vous rencontrez ces enfants, ils doivent vous adorer.
Alors, ben, je rencontre des enfants, mais je rencontre aussi beaucoup d'enseignants.
C'est le milieu, voilà. C'est le milieu. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une graphopédagogue? Avant de parler du concours qui est écrit en cursive, c'est cool. Okay. Oui.
Alors, grapho pour le geste graphique, hein, pour l'écriture.
Oui.
Et pédagogue pour l'enseignement d'enfants. Je suis graphopédagogue, c'est-à-dire que j'enseigne aux enseignants et aux enfants aussi, mais je fais surtout de l'enseignement auprès des enseignants.
Oui.
J'enseigne, dans le fond, l'écriture cursive. J'enseigne le geste graphomoteur.
Oui.
Parce que, vous savez, dans les universités, malheureusement, c'est un savoir qui est oublié. Dans le cursus des futurs enseignants, ben ils ont pas de cours pour savoir comment enseigner l'écriture.
Oui.
Donc, voilà.
C'est votre spécialité.
Oui.
Voilà.
Entre autres.
Non, je veux dire votre spécialité en graphopédagogie, quoi. Voilà.
C'est
ça, il faut être précis.
En écriture.
Alors, c'est quoi ce concours-là? Écrit en cursive, c'est cool.
Oui.
J'aime ça.
Oui, ben, écoutez, on a, dans le fond, on s'est joint au concours Cursive is Cool, qui a été fondé par des Américains en 2013, par la American Handwriting Analysis Foundation. Donc, c'est une fondation dédiée à l'écriture.
Oui.
Et eux, ils ont commencé tranquillement à faire un... Parce que vous savez, aux États-Unis, l'enseignement de la cursive a été banni dans plusieurs États.
Pourquoi?
Et parce qu'on trouvait que, je ne sais pas, il y a des États qui ont décidé. Donc, ça a été enlevé du cursus scolaire. Et puis, il y a des gens qui se sont mobilisés. Et tranquillement, il y a certains États où on a réintroduit l'écriture cursive. Donc, au départ, ce concours-là était là pour mettre l'attention sur l'écriture cursive et aussi comme un petit peu un moyen de redonner à la cursive ses lettres de noblesse.
Oui.
Et moi, en 2017, ben, j'ai décidé, parce que le concours était seulement aux États-Unis et un peu au Canada anglais, et il n'y avait rien dans le monde francophone. Alors, j'ai décidé de me joindre à eux. Et comme c'est « Cursive is cool » en anglais, ben, j'ai décidé d'appeler ça « Écrire en cursive, c'est cool ».
Ouais, non, c'est tellement beau, c'est tellement... Ouais, la phonétique... C'est là dans les oreilles, là, depuis que j'ai découvert ça. Quand j'ai dit, tiens, elle sera avec moi aujourd'hui, la graphopédagogue. Avec pour parler du concours écrit en cursive, c'est cool. Et c'est la quatrième année consécutive.
Oui. Et ça a été tout un défi. Bon, c'est sûr qu'au début, personne connaissait le concours, donc on a commencé doucement.
Mm-hmm.
Et puis, on a eu une petite crainte l'année dernière là, avec COVID. On s'est dit, oh là là, les professeurs, ils en ont plein, les bottes là, avec tout ce qui se passe. Donc, peut-être qu'on n'aura pas de participation.
Hein?
Et curieusement, l'année dernière, ça a été l'année où on a eu la plus grande participation.
Vous l'avez fait, vous l'avez fait virtuellement?
Non. Les enfants, les enfants nous envoient leurs lettres par la poste.
Ah, moi, d'accord. OK.
Donc, on reçoit tout. J'ai reçu quelques participations en PDF.
Oui.
Parce que il y avait des participants, parce que le concours, c'est au Canada.
Oui.
Mais curieusement, on a eu des gens de d'autres pays qui ont demandé s'ils pouvaient participer.
S'ils pouvaient participer.
Oui, alors on a eu, c'était adorable, on a eu une petite fille, une petite Québécoise qui était sur un voilier avec ses parents. Donc, elle faisait l'école sur le voilier. Et sa grand-maman a demandé, est-ce que ma petite fille peut participer, même si elle est sur un bateau?
Même si elle est sur l'océan?
Oui,
okay.
Il y avait d'autres de l'île de la Réunion aussi
qui ont participé. Oui, quatrième édition. Comment, quand vous les avez approchés, les écoles, les enseignants, les directrices ou bien directeurs d'école, comment ils ont réagi pour la première année?
Écoutez, nous, on a envoyé un courriel, hein, on envoie un communiqué de presse, et puis on c'est comme si on jetait une bouteille à la mer, on ne sait pas
ce que ça va donner, va arriver.
Alors, c'est ça, exactement. Et puis la première année, comme je vous dis, on n'était pas connus, donc on a eu quelques écoles qui ont participé. Et puis, bon, après ça, bon, on a mis les photos des gagnants, puis on a mis les prix et tout ça. Donc, ça se fait comme ça de bouche à oreille.
Oui.
Et je pense que l'engouement, il commence à s'installer. Puis on a des participants aussi des provinces aussi de la Colombie-Britannique. Il y a des écoles francophones dans d'autres provinces. Alors, ils participent aussi.
Ah, ça s'arrête pas à Kokobé, parce que de toute façon, il y a des communautés francophones dans tout le Canada.
Tout à fait. Bon, c'est très intéressant.
Allez-y.
Oui. Ben, c'est ça. On a des participants de partout. Puis c'est adorable de lire toutes ces petites lettres-là d'enfants de première année. Dans le fond, c'est le primaire. Hein, c'est tout le primaire.
Oui.
Donc, c'est adorable.
Les enfants de 6 à 13 ans.
Voilà. Tout à fait. Mm-hmm.
Donc, pourquoi est-ce que vous n'élargissez pas jusqu'à 18 ans?
Ben, bonne question.
Oui.
On aimerait ça. C'est quand même beaucoup de travail, hein, mais... Oui, ça serait quelque chose. Moi, j'y pense sérieusement parce que je travaille maintenant avec des jeunes dans des écoles secondaires parce que vous savez que c'est un problème. Il y a des enseignants qui se rendent compte que leurs étudiants sont pénalisés aux examens du ministère parce qu'ils ont du mal à écrire.
Oui.
Et comme il faut tout faire à la main, ben ils perdent des points parce que leur écriture est illisible. Alors, j'ai une école secondaire qui m'a demandé d'aller aider les jeunes à mieux écrire.
Oui.
Et c'est des jeunes de secondaire, donc là, je me suis dit, ça serait bien d'ouvrir le concours.
Faites d'une pierre deux coups en même temps.
Ben oui, c'est ça, mais bon, écoutez, je prends la suggestion en compte et puis peut-être que l'année prochaine, on élargira jusqu'au secondaire.
Oui, on va commencer à décrire à peu près quelles sont les conditions pour passer au concours. Qu'est-ce que les enfants de 6 à 13 ans doivent faire?
Oh, c'est très simple. Ils doivent simplement nous écrire une petite lettre en nous expliquant pourquoi ils aiment l'écriture cursive et quels sont les avantages d'écrire en cursive, c'est tout. Alors, ils composent un petit texte puis ils nous l'envoient.
Oui, moi j'adorais ça quand j'étais encore sur les bancs.
Ah oui.
Oh oui, j'adorais ça quand j'étais encore sur les bancs. Voilà, je me suis dit, bon ben, on fait une petite pause musicale et puis on revient pour la suite. Non, j'adore ça. Et puis le concours écrit en cursive, c'est cool. Ça, j'adore. On fait une petite pause musicale et puis on vous revient.
Très bien, merci.
Merci.
Donne-moi juste un rythme pour battre mon cœur, combattre mes peurs, qu'on bascule dans un monde sans douleur. Donne-moi juste un rythme pour battre mon cœur, combattre mes peurs, qu'on bascule dans un monde sans douleur. Donne-moi juste un rythme pour voir la beauté du ciel s'étendre et que ces astres, on puisse un jour les atteindre. Donne-moi juste un rythme pour que j'écrive de belles paroles, de la poésie sous toutes ses formes, munie d'une auréole. Donne-moi juste un rythme qu'il nous ramène à l'essentiel. Sache qu'un cœur n'est pas toujours rouge, mais arc-en-ciel. Donne-moi juste un rythme pour l'inspiration. Il m'amène là où j'aspire à faire mieux dans toutes les situations. Donne-moi juste un rythme, qu'une union soit perceptible. C'est ensemble que nous brillerons et accomplirons les possibles. Donne-moi juste un rythme, qu'une ouverture d'esprit puisse s'installer, qu'il corrige ses œuvres abîmées. Donne-moi juste un rythme, c'est ce qui apaise ma plaie, m'a placé là où la liberté m'appelle. Et donne-moi encore plus de rythme, qu'on déplace des montagnes s'il le faut. On se mettra pas de barrage ou de barreau, on mettra plutôt la barre haut. Allons guérir tous ces êtres à l'aide de tempo. Allons guérir tous ces êtres. À l'aide de tempo. Donne-moi juste un rythme pour battre mon cœur, combattre mes peurs, qu'on bascule dans un monde sans douleur. Donne-moi juste un rythme pour battre mon cœur, combattre mes peurs, qu'on bascule dans un monde sans douleur. Donne-moi juste un rythme pour battre mon cœur, combattre mes peurs, qu'on bascule dans un monde sans douleur. Donne-moi juste un rythme pour battre mon cœur, combattre mes peurs, qu'on bascule dans un monde sans douleur. Donne-moi juste un rythme, une dose d'amour et de liberté, afin de transfigurer les paysages. C'est tout ce qu'il faut. Une clé vers l'évasion. Alors partons, que l'on partage nos émotions.
Juste un rythme avec la voix en arrière aussi de Andréane. Voilà, on l'avait reçu. Si c'est une de ses pièces de son album Vivre. Voilà, c'est toujours avec Graziella Pettinati, qui est graphopédagogue, qui est engagée pour la diffusion et la promotion du rôle de l'apprentissage du geste graphique dans le développement psychomoteur de l'enfant depuis près de 20 ans. Ça, c'est aussi
oui.
partout,
oui.
tout naturellement. Oui. Ouais, décide de joindre le mouvement d'organiser l'édition francophone de ce concours. Écrire en cursive, c'est cool, bien sûr. En partenariat avec les éditions Graziella Pettinati. Ouais. Mm. Est-ce que les éditions Graziella Pettinati existaient déjà avant le concours, avant que vous ne vous lanciez dans la version française?
Oui, ça existait
Quel beau partenariat. Voilà, donc c'est cette édition qui est destinée d'abord aux parents, aux enseignants, aux éducateurs, aux professionnels de la rééducation. Les ouvrages publiés par votre édition pour objectif de favoriser le développement psychomoteur et la réussite des enfants. Voilà, bravo à
tout
vous,
fait.
De 0 à 10 ans. Ouais.
Oui, c'est très bien. Et votre pièce musicale était très bien choisie parce que donne-moi juste un rythme. Dans l'écriture, il y a le rythme aussi.
C'est ça.
Je l'ai trouvé très jolie, votre pièce
musicale.
Oui.
Merci beaucoup. Oui. C'est la meilleure Montréalais. Ça fait partie de son dernier album. Alors, on écoute. Comment, quand les gens, ils attendent, là, quand ils envoient leurs écrits, leurs textes, tout ça, il y a un jury qui est là pour ça. Non? Vous avez
oui,
un jury.
C'est ça. On a un jury de constitué de 3 personnes qui évaluent dans le fond les parce que bon on décerne des prix, le premier prix, le deuxième prix, le troisième prix et on a ajouté cette année un prix de participation parce que l'année dernière c'était on avait seulement un prix puis on avait plusieurs prix de participation et on a décidé de maintenir le prix de participation pour permettre à tous les enfants, même ceux qui ont peut-être une calligraphie qui est pas parfaite, mais de pouvoir participer quand même.
Oui.
Donc, les juges se fient sur des critères comme la lisibilité et puis aussi les éléments de base de l'écriture, c'est-à-dire l'organisation de l'espace, la forme, le mouvement, le rythme justement de l'écriture. Ouais. Alors, parce que le geste graphique, c'est un geste unique. Hein. Chacun, on a notre propre écriture qui n'est pas celle du voisin d'à côté.
Non, c'est unique, c'est bien collé à chacun de nous, quoi, chacun sa manière de... Voilà.
Tout à fait.
C'est
et
ça.
Notre écriture varie avec notre humeur, notre état de santé, nos émotions. Alors, voilà, l'écriture, elle est vivante, elle bouge, c'est ça, elle a sa propre vie.
Oui. Alors... Comment ça se passe? Et puis là, bon, les enfants, ils ont jusqu'à quand? Et les enseignants, tous ceux qui partent, les enseignants, qui bousculent un peu leurs élèves, pour dire ah, ne soyez pas en retard. Bon, au plus grand tard, quelqu'un, est-ce que ça doit devoir envoyer? Est-ce qu'ils ont le temps?
Alors, je vais être honnête avec vous et c'est la même chose. J'ai consulté mes consoeurs là, qui organisent le concours ailleurs.
Oui.
Et honnêtement, les entrées se font majoritairement à la fin. Donc, on peut dire que début février, les gens commencent à penser au concours.
Oui.
Normalement, c'est en janvier, mais cette année, compte tenu de la rentrée scolaire en janvier, on a décidé de tasser ça en février.
Oui.
On reçoit, la majorité des entrées se font à la fin du concours. Donc, c'est à fin avril on reçoit des enveloppes, de partout.
La dernière semaine du mois d'avril.
Oui.
C'est jusqu'au 30 avril.
C'est jusqu'au 29 avril.
Jusqu'au 29, disons, voilà.
Oui.
Voilà, l'année passée, c'est jusqu'au 30, cette année, c'est jusqu'au 29.
Ben,
voilà, c'est toujours ça. Comme ça, c'est comme les déclarations d'impôts, il y a des gens qui attendent.
Tout à fait. Les gens attendent à la dernière minute.
Oui.
Et ce n'est pas seulement des écoles qui participent. Il y a des enfants, je reçois des lettres où c'est un enfant individuellement qui a décidé de participer. Donc, parfois, je reçois des grosses enveloppes qui proviennent d'une école avec des trentaines, des quarantaines de feuilles. Mais parfois, ce sont des enfants qui décident de vouloir participer.
Ah, donc, Graziella, si je comprends bien, on n'a pas bien forcément d'être inscrit dans une école pour y participer.
Pas du tout, pas du tout.
Ah, bon, d'accord, OK.
Non, pas du tout. Donc, c'est tous les enfants qui peuvent participer.
OK, qu'on soit dans une école ou pas.
Tout à fait. Qu'on fasse l'école à la maison
ou
peu importe, on peut participer au concours, tout à fait.
Merci d'éclaircir ça, ouais, parce que je croyais que c'était lié seulement aux écoles.
Non,
sinon il y a d'autres qui se sentent un peu discriminés, quoi.
Tout à fait. Non, c'est ouvert à tout le monde. Et puis, je peux vous dire que je reçois peut-être la moitié qui sont des enveloppes qui proviennent des écoles et l'autre moitié, c'est des enfants, peut-être qui en ont entendu parler à l'école,
oui,
mais qui ont pris les informations puis qui ont décidé de participer par eux-mêmes et non pas par la classe.
Oh, génial. Génial. Mmh. Alors, comment est-ce que vous arrivez à former votre jury?
Alors, moi, j'ai deux personnes qui ont de l'expérience, qui sont graphologues aussi, qui ont de l'expérience sur le geste graphomoteur. Une enseignante et une autre qui a été enseignante aussi autrefois.
Oui.
Donc, on se réunit les trois et puis on prend, donc on les fait par niveau, hein, on donne les prix par niveau.
Mmh.
Alors, on prend toutes les spécimens d'écriture d'enfants de première année et puis là, ben, on juge chacun on donne des points et puis on détermine le premier, le deuxième et le troisième prix comme ça.
Oui.
Et pour le tirage au sort, bien là, on y va au hasard. On inscrit tous les noms, puis on pige un nom.
Et une petite question, est-ce qu'il y a plus de jeunes filles qui participent plus que de jeunes garçons?
Oui, mais il y a quand même beaucoup de garçons aussi qui participent. Mais honnêtement, peut-être vous avez raison, il y a plus de filles que de garçons.
Oui.
Oui.
Parce que
c'est dommage.
Oui, c'est dommage. C'est un peu. Voilà. Avant, on disait que oui, les filles ne sont pas dans beaucoup de domaines, mais maintenant, elles ont pris la place un peu partout. Tant mieux, d'ailleurs. C'est du bon côté, ce que je vois. Même, c'est comme dans certaines facultés, dans les universités, il y a beaucoup plus de femmes que de jeunes garçons, quoi.
Tout à fait.
Oh, oui,
à fait.
Oui, parce que. Les garçons avec l'écriture, c'est pas vraiment chose.
Ben, pas pour tous les garçons, mais...
Quelques-uns.
Oui, c'est ça.
Je voulais juste savoir si c'était égal 50-50 ou bien un peu plus de garçons
non.
que de femmes.
Les femmes sont égal, mais on a eu des gagnants garçons quand même. Hein?
Oui. Ah bon?
Oui. L'année dernière, j'avais un spécimen de jeune garçon en sixième année, une écriture splendide.
Oui, parce que c'est écrit, cursif, c'est de l'esthétisme. Hein?
Ben c'est une écriture, l'écriture cursive, c'est en lettres attachées, donc c'est ça. Donc, les gagnants, c'est pas par sexe, hein, c'est par niveau. Donc, ça peut être une fille, ça peut être un garçon, mais on a eu des gagnants garçons.
Oui.
À chaque année, on a des garçons qui sont parmi les gagnants.
Mmh, mmh, mmh. Wow.
Mais vous avez raison, il y a plus de filles qui participent, ça, c'est vrai.
Alors, un dernier mot là que vous allez lancer aux parents qui nous écoutent, aux enfants qui nous écoutent, surtout les parents qui vont dire à leur fille, tiens, il y a un concours là, même si tu n'es plus à l'école, tu peux y participer, tu n'as pas encore 14 ans, parce que c'est
Un dernier mot. Tout le monde peut participer.
Tout le monde peut participer. Mmh. Mais est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il y a des parents qui poussent leurs enfants ou bien qui font le... Il y a pas de... On peut pas truquer dans ça, de toutes les façons.
Non, on peut pas. Ben non, on peut pas truquer. Mais c'est sûr que pour les plus petits, c'est les parents qui remplissent le questionnaire.
Oh oui, ça c'est autre chose. Bon, ça c'est autre chose.
C'est tout autre chose, tout à fait. Mmh. Et puis, puis aussi, il y a des parents qui communiquent avec moi par courriel pour, bon, s'assurer, est-ce que vous avez reçu la lettre de ma fille ou de mon garçon?
Oui.
Et puis donc, il y a des parents qui s'impliquent. Et puis aussi, on a des parents qui, chaque année, j'ai des enfants qui participent depuis la première année du concours.
Depuis la première année du concours, oui.
C'est le petit frère qui suit après. Là, les parents me disent, j'ai une maman qui m'a écrit, « Ah, sa petite sœur va participer l'année prochaine parce qu'elle rentre en première année. »
Toute la famille s'implique.
Oui, oui.
Comment vous voyez l'avenir de ce concours-là?
Ben, écoutez, ça dépend des jours. Il y a des journées où, quand je reçois les lettres, je suis remplie de joie et très positive. Mais aussi, il faut être réaliste. On vit dans un monde de plus en plus numérique. Les gens écrivent de moins en moins.
Oui, c'est pour ça que j'ai posé cette question-là. Oui, effectivement. Oui.
Est-ce que l'écriture cursive va disparaître ou pas?
Non, je ne pense pas. Si, avec toute la volonté que vous y mettiez, avec toute l'équipe qui vous entoure, les gens, les parents, tout ça, je pense bien que ça vous permet de garder le cap. Et puis, bon, ben. Les gens vont prendre goût. C'est comme écrire. Les gens ne sont pas tout le temps en train d'écrire avec leur ordinateur. Il y a des gens, moi, j'aime écrire aussi à la main. Qui aime écrire un peu à la main.
Oui, et ça, tenir son petit journal personnel. Puis justement, dans la pièce musicale, écrire de la poésie, écrire de la musique, écrire des paroles de chansons, écrire ses émotions. Tout ça, ça se fait beaucoup mieux avec un crayon qu'avec un clavier.
C'est ça. Vous pouvez me donner le site web, le lien là, pour que les gens puissent aller ou envoyer ou bien l'adresse courriel.
Le site web, c'est grazielapetinati.com. Vous allez dans graphopédagogie et puis vous allez voir concours cursive est là.
Alors,
tous les renseignements sont là.
Ils ont jusqu'au 29 avril pour faire parvenir le test en cursive.
Et si vous voulez, après, ça me fera plaisir de vous partager les gagnants, là.
Si vous ne le faites pas, là, je ne serai pas content. On va vous réinviter pour ça, pour qu'on sache au moins qui a gagné.
Tout à fait.
Voilà.
Ça va me faire plaisir.
Merci beaucoup, Graziella Pettinati, graphopédagogue. Ça, c'est pour le concours. Écrire en cursive, c'est cool. Dépôt, date limite de dépôt d'envoi des textes, c'est le 29 avril 2022. Merci à vous et à bientôt.
Merci, à bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
See you shine in the night like the diamond you are. I'm good on the side, it's alright. Just hold me in the dark. No one's gotta know what we do. Hit me up when you fall. Nothing feels better than this. Nothing feels better. Nothing feels better than this. Nothing feels better. I'm not. But we don't gotta hide. This is what you like out of me. Nothing feels better than this. You say we're just friends, but I swear when nobody's around. Talking.
Khalid, Better, c'est le titre de la pièce. Voilà, merci à toi Nicolas, belle fin de semaine à toi, bon week-end, on se retrouve lundi prochain, et on dit merci à Myriam Larache qui avait nous parler de tennis et de JO Pékin, JO d'hiver Pékin 2022, et merci à notre invité Graziella Pettinati, graphopédagogue, voilà, concours écrit en cursive, allez, envoyez vos textes, les petits enfants, jusqu'au 29 avril. Voilà, et vous, chers auditeurs, auditrices, merci de votre fidélité. Et on se retrouve demain à la même heure sur les ondes de Canal M. Et prenez soin de vos minutes. Et sur ce, je vous dis ciao.